Je suis à ma fenêtre aujourd'hui, et depuis ma fenêtre, je vois un gigantesque chantier qui s'est ouvert il y a quelques jours, à moins de 100 mètres de chez moi, avec un grand trou qui est en train d'être creusé par des pelles mécaniques pour construire un bâtiment. Je ne sais pas encore très bien à quoi il va servir. Et c'est marrant parce que, en même temps que je vois les hommes s'échiner, s'acharner à couler du béton pour construire de nouveaux bâtiments, j'ai en tête ces images de villes vides comme New York, comme Paris, comme Milan, comme Mumbai aussi en Inde. Ces villes où il ne reste justement plus que le béton. Comme si toute trace de vie humaine avait disparu.
La vie au temps du coronavirus.
Et je vais parler de ça aujourd'hui avec Timothy Hanem. Il est illustrateur, il est blogueur, il est aussi photographe amateur et c'est surtout un adepte de l'urbex. L'urbex, c'est l'exploration urbaine, c'est cette passion qui pousse des gens à aller visiter, photographier, documenter, se faire peur parfois aussi dans des lieux abandonnés, dans des lieux désolés, comme des vieux manoirs, comme des friches industrielles, comme des stations de métro, comme des parcs d'attractions aussi. Et avec Timothy Hanem, j'ai envie de parler de cette esthétique du désastre, cette esthétique de la catastrophe. Pourquoi, quand on voit ces photos de villes vides, c'est à la fois très beau et en même temps complètement glaçant. Alors, allô. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Et vous m'entendez?
Ouais, c'est magnifique, ça marche.
le son est bon, ça va?
Ouais, je vais régler un tout petit peu le micro.
D'accord.
Dites-moi, qu'est-ce que vous avez eu pour votre petit déjeuner?
Pour mon petit déjeuner, j'ai pris un petit thé citron gingembre et des biscottes avec du beurre et de la confiture de mûre dessus.
Confiture de mûre?
Ouais, j'adore ça.
C'est votre côté architecte?
Ouais, je sais pas si c'est côté architecte, mais non, c'est une habitude comme ça. J'adore les biscottes, le pain grillé, voilà. Et le thé surtout. Je ne bois pas de café et je ne bois pas d'alcool, mais le matin, je suis très thé. J'adore le thé.
Bravo, vous êtes un des seuls en Europe à ne pas boire d'alcool.
Oui, on est très peu à ne pas boire d'alcool en Europe, c'est vrai.
Ben, ça fonctionne parfaitement bien. Je vérifie juste que ça roule. Vous allez bien?
Oui, je vais très bien, et vous?
Ouais, ça va bien. Il fait beau.
Ouais, il fait très beau et c'est d'autant plus déprimant de devoir rester à l'intérieur quand on voit le temps qu'il fait dehors.
Là, vous êtes à Paris, hein, c'est ça?
Ouais, on est à Paris.
Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas du tout sortir?
À part pour les courses, on en profite pour faire une petite balade, on fait un grand tour quand même. Parce qu'en fait, le Monoprix est à 200 mètres.
Ouais.
Du coup, on en profite, ça serait trop rapide en fait.
Vous faites le tour du Monoprix, c'est ça?
C'est ça, on tourne 5 fois autour pour histoire de bien prendre l'air. On voit un peu les arbres refleurir, ce genre de choses, ça va, on tient le coup quand même.
Je vous remercie de passer un petit moment avec moi, Timothy Hanem, pour parler justement de ces villes et de ces images qu'on a. Parce qu'en Suisse, on est en semi-confinement, donc il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais disons qu'il y a un petit peu plus de vie qu'à Paris, que dans certains quartiers de New York aussi, ou dans les villes du nord de l'Italie, qui sont, on a l'impression que ce sont des villes fantômes. Vous ressentez ça aussi?
Oui, et c'est vrai qu'on ressent beaucoup ça, et c'est d'autant plus étrange que c'est des villes fantômes où il fait beau et on entend les oiseaux chanter. Parce que d'habitude, les villes fantômes, on a plutôt une image un peu glauque, ou grise en tout cas, de ce genre de lieu. Et en fait, on se rend compte qu'une ville fantôme, ça peut être une ville toute propre, avec des arbres verts, le ciel bleu, les oiseaux qui chantent. Donc c'est très étrange. Ouais.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous vous baladez dans ces villes ou quand vous voyez ces images aussi très impressionnantes quand même?
On se rend compte que souvent, une ville, on dit qu'une ville est belle de par son architecture, comme les villes comme Paris, New York ou Kyoto, plein de genres d'endroits comme ça. Et en fait, quand il n'y a personne autour des bâtiments, on se rend compte que c'est moins beau. Et c'est comme si c'était les gens autour des bâtiments qui créent la vie et qui créent la beauté, qui créent en tout cas ce qui font qu'une ville est considérée comme belle. En fait, c'est l'activité humaine qu'il y a autour. Et en fait, par exemple, comme pour Notre-Dame ou le Louvre ou la pyramide du Louvre, ce genre d'endroit, quand il n'y a personne tout autour, tout d'un coup, il y a vraiment une sensation de vide et de tristesse, de mélancolie. Donc, oui, c'est vrai que c'est très étrange de voir comme ça que le vide des villes fantômes arrive dans des villes qui ne sont pas censées être fantômes.
Extrêmement rapidement en plus.
Oui, c'est vrai que ça s'est presque fait du jour au lendemain. Et oui, ça fait 2, 3 semaines que quand on sort, quand on va faire les courses une fois par semaine, on se promène, on a l'impression vraiment d'être. Dans ma situation, c'est comme si on était en plein mois d'août, en fait, où tout le monde est parti en vacances et il n'y a plus personne du tout. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude de sortir de chez moi et d'entendre les klaxons toutes les 2, 3 secondes à tout bout de champ, bah là, en fait, on entend les oiseaux et ça fait beaucoup de bien, en fait. Paradoxalement, ça fait beaucoup de bien.
Est-ce que vous avez cette impression, parce que moi je l'ai eu à travers les photos, évidemment, une photo elle est statique, elle est construite aussi pour donner une impression, mais il y a un côté un peu angoissant dans ces photographies. L'impression qu'on a, c'est que tout le monde est mort.
Oui, bien sûr, il y a vraiment un côté angoissant et justement par rapport aux villes fantômes assez connues comme par exemple comme Détroit, on regarde souvent ces photos en se disant waouh, c'est fascinant, ces villes fantômes, il n'y a plus personne. Mais en fait, on se rend compte que c'est fascinant parce que c'est loin. Et quand c'est tout d'un coup c'est le côté fantôme qui vient chez nous et que c'est notre ville à nous qu'on a connue qui est complètement vide, bah tout d'un coup c'est plus aussi fascinant en fait. Ça fait vraiment peur parce que tout simplement on se dit mais combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est là pour toujours? Où sont les gens? Alors les gens, on les entend le soir quand ils applaudissent au balcon à 20 h. Mais en journée, si on se promène pour faire des courses, qu'on croise pratiquement personne, c'est vraiment étrange. Et pour peu qu'on croise une personne, et ben en fait, il y a vraiment une espèce d'angoisse ou de méfiance, comme ces films catastrophes où il n'y a plus personne. Et quand on croise une personne, ben, ça peut être un danger potentiel. Donc c'est assez angoissant de se promener comme ça. Le tout avec en plus, comme je disais tout à l'heure, des arbres complètement verts en fleurs et un ciel bleu. Il y a un contraste qui est assez incroyable.
C'est beau aussi. Alors vous dites que vous préférez les villes quand elles sont habitées. En même temps, il y a une sorte d'esthétique du désastre quand on voit ces villes sans personne.
Oui, bien sûr, bah c'est quelque chose que je connais bien de par mon activité de photographier comme ça des lieux qui sont très souvent en majorité vides. Et c'est vrai qu'il y a une esthétique impressionnante. Enfin, le fait de se promener dans des avenues, des boulevards qui sont complètement vides, où il y a d'habitude. D'habitude, c'est encombré d'embouteillages, et là, il y a juste une ou deux voitures qui passent. Bah, il y a un côté vraiment, oui, tout a disparu, le monde s'est arrêté, c'est la catastrophe, et on se met à penser à des films comme La Route ou Mad Max, ce genre de choses. Et c'est vrai que tout d'un coup, ouais, il y a un côté vraiment angoissant parce que c'est tout autour de nous, et le fait en plus que ça soit lié à une maladie, ça contribue beaucoup à l'angoisse parce que une maladie, c'est quelque chose d'invisible. Et on se promène dans la rue et on a beau se dire que bon, c'est les gens qui transmettent la maladie. On se dit, là, je me promène dans un environnement, dans l'air, est-ce que le virus est là ou pas? On a beau être très rationnel, il y a quand même une espèce de peur parce que c'est vraiment quelque chose d'invisible. Même si on croise quelqu'un, on ne sait pas si cette personne, est contaminée ou pas, ça se trouve, elle ne le sait pas. Donc, ouais, c'est vraiment la peur, invisible.
C'est comme les zombies.
Les zombies, c'est plus simple parce que généralement, ils marchent lentement et ils ont vraiment un look de zombie. Donc, là, on peut les reconnaître, mais là, c'est encore pire parce qu'on ne peut pas reconnaître les gens qui sont contaminés ou pas.
Pourquoi est-ce qu'on trouve, vous êtes un adepte de l'urbex, donc vous aimez ces lieux déserts, désertés, abandonnés. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça beau?
Alors très souvent, on trouve ça beau parce qu'il y a la végétation qui reprend le dessus. C'est le lierre qui rentre par une fenêtre cassée, ou alors qui grimpe sur les façades, ou du gazon qui pousse sur les routes, sur les boulevards ou sur le toit des maisons. Souvent, il y a un côté vraiment. On est tous plus ou moins conscients que l'être humain a détruit la planète hein, en grande partie. Donc le fait de voir que la nature pas reprend ses droits, parce que c'est un peu étrange de dire que la nature a des droits, mais c'est un peu le fait que ah bah finalement la nature reprend le dessus et on va disparaître et le monde va redevenir tel qu'il était avant que l'homme apparaisse. Donc il y a un côté vraiment beau dans le sens bon on a fait beaucoup de mal à la planète mais la planète va s'en remettre. Donc moi je pense qu'il y a une partie de ça et puis il y a aussi une partie du fait que ça nous renvoie à notre condition éphémère en fait. Une espèce de comment dire d'angoisse ou de tristesse de voir que finalement tout n'est pas fait pour durer. Et ça crée un peu de nostalgie, et nostalgie c'est souvent beau en fait, parce que ça ramène à des sentiments de souvenirs du passé, des émotions. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on trouve beau ces photos de lieux en ruine. Il y a vraiment un mélange de tristesse, mais en même temps de beauté, parce que c'est la tristesse, mais reprise par la nature.
Vous, ça fait des années, hein, que vous vous intéressez, à l'urbex, à l'exploration urbaine. C'est ça qui vous y a attiré?
Oui, moi j'ai. Bah, ce qui m'a attiré au tout départ, c'était quand j'étais enfant, c'était vraiment le plaisir de visiter la maison hantée du quartier, ou que l'on disait hantée comme tout le monde, et d'y aller pour se promener et vraiment tenter l'aventure, quoi, s'amuser à se faire peur.
Vous en aviez
Et
une
ensuite.
de maison hantée près de chez vous quand vous étiez enfant?
Oui, bien sûr, oui, il y en avait une. Bah, bon, maintenant, elle est rasée, mais c'est vrai qu'en se promenant dedans, c'était juste une petite maison de quartier, comme ça, entourée de plein d'autres maisons qui étaient très bien habitées. Et on se promenait dedans, dans la cave, on s'amusait à se faire peur, en pensant trouver des choses complètement horribles ou épouvantables, alors qu'en fait, c'est surtout l'imagination qui faisait ça. Et puis, le fait de la peur, le plaisir de l'interdit jouait beaucoup, énormément, en fait.
Ça, vous aviez quel âge?
Ça, j'avais 8-9 ans, je crois, entre 7 et 10 ans, par là.
Ok.
Et c'était quand j'étais en école primaire, et c'est vrai qu'avec quand j'ai commencé à faire mes études d'art et d'architecture, j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à l'histoire de ces lieux. En fait, j'y allais plus trop pour m'amuser à me faire peur, mais je me demandais aussi qui avait habité là, pourquoi c'était abandonné, depuis quand était construit le bâtiment, pourquoi personne n'en faisait rien. Ça faisait beaucoup de questions, et c'est là que j'ai commencé vraiment à me promener dans ces lieux, à les documenter, en fait, à prendre le plus de photos possible, pour garder une trace de ces lieux et me dire, en les mettant sur Internet, peut-être des gens vont m'écrire pour me dire, ah ben je connais cet endroit, je connais son histoire, je peux vous apporter des informations, et essayer de reconstituer un peu de désépaissir le brouillard de mystère qui entoure ces lieux.
Ça s'est passé?
Oui, ça c'est vraiment c'est une histoire émouvante. J'ai visité un orphelinat en 2007 et je ne connaissais rien de son histoire. En fait, il n'y avait rien sur Internet, rien du tout. Et je l'ai visité en sachant qu'une seule chose, c'était un orphelinat. Bon, et donc je l'ai visité, j'ai fait des photos, j'en ai fait un article, et après j'ai fait une mini bande dessinée où je me dessine en train d'explorer le lieu, et j'ai un peu peur parce qu'il y a le vent qui fait battre, le vent fait claquer les fenêtres ou les portes, donc ce genre de choses, on a très vite peur, et c'est un peu un des plaisirs de l'urbex, c'est de s'amuser à se faire peur avec le vent qui joue avec le mobilier. Et au bout de 2 3 semaines, en fait, sous cette BD, dans les commentaires, des gens commençaient à écrire en me disant, mais moi je connais cet orphelinat, j'y étais, j'avais 8 ans. Et une de ces personnes m'a écrit en me disant, si ça t'intéresse, on retourne sur place et que je t'explique toute l'histoire du lieu. Et cette personne m'a raconté que du coup, que l'orphelinat s'était terminé, avait fermé de façon brutale et assez tragique, en fait, il y a une trentaine d'années, même 40 ans bientôt,
Qu'est-ce qui s'est
quand j'étais
passé
dans
dans
la
cet
salle.
orphelinat?
Bon, en fait, c'était un orphelinat fondé par la CGT dans les années 70, et il a
Syndicat,
fonctionné
ouais.
jusqu'en 4. Voilà, un syndicat. Et c'était assez politisé dans le fait d'éduquer les enfants. Et il y a eu un conflit du personnel fin 87, hein, parce que le personnel refusait d'appliquer les méthodes de la CGT. Et du coup, ils sont mis en grève fin 87.
Ah ouais, c'est le personnel s'est mis en grève contre la CGT.
C'est ça, ouais. Donc c'est assez particulier.
Ouais.
Et moi, c'est assez fou de se dire que ça existait, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et en janvier 88, donc la grève s'est vraiment durcie. Les moniteurs sont barricadés dans l'orphelinat avec les enfants. Et le service d'ordre de la CGT est venu vers 3-4 heures du mat avec des barres à mine et des pioches et des pelles. Et ont mis tout le monde dehors, y compris les enfants, vraiment manu militari. Donc c'était assez catastrophique de se dire que tous ces orphelins qui étaient sur place, il y en avait je crois une cinquantaine ou entre 50 et 100. Et tout ça a été mis par terre en une nuit. Et donc tous ces enfants ont été éparpillés aux quatre vents, en fait. Donc c'était assez fou de se dire, waouh, il s'est passé ça sur place et il n'y a rien qui en témoigne. Aujourd'hui, ça arriverait, il y aurait 10 000 vidéos faites avec des smartphones et ça serait dénoncé et ça serait un véritable scandale. Les orphelins qui avaient à l'époque entre 10 et 15 ans, bah aujourd'hui, ils ont une quarantaine d'années et ils ont toujours ça en travers de la gorge, en fait.
Timothy Hanum, vous en avez visité combien de ces lieux abandonnés en tout?
Depuis, on va dire, depuis la fin des années 90, ça doit faire 300 lieux environ.
300. Il y a des endroits où vous retournez?
Oui, j'aime beaucoup retourner suivant les saisons pour montrer différents aspects du lieu. Et je sais que je suis retourné une dizaine de fois dans un manoir au sud de Paris parce que il était tellement fascinant d'un point de vue histoire. Et en automne, il est magnifique avec les arbres autour qui sont rouges et oranges. En hiver, à l'époque où il neigeait, c'était une expérience incroyable. Et puis au printemps, on voit les fleurs qui repoussent. En été, c'est génial pour faire des pique-niques avec des amis. Donc, si le lieu est vraiment propice et intéressant, j'aime beaucoup y retourner pour suivre son évolution déjà. Mais même aussi parce que des fois, je vais visiter un lieu et une personne va m'écrire en me disant, ah, j'ai vu que tu es allé visiter tel endroit, mais tu as oublié de visiter telle pièce ou telle petite maison au fond de la cour que tu n'as pas vue, ce genre de choses. Donc là, je me dis, ah, j'ai oublié ça. Donc j'y retourne pour essayer de compléter un peu ma page et un peu plus l'étoffer avec ce que j'aurais pu rater.
Ce manoir, c'est celui qu'on voit sur la home page de votre site, c'est ça?
C'est ça, voilà, c'est le domaine des trois colonnes. Et que la photo est prise en automne.
C'est incroyable, hein?
Oui, c'est un lieu vraiment fascinant.
En plus, on a l'impression qu'il est en train de se détruire, hein. C'est un peu, Enfin, je sais pas comment
Complètement,
dire
enfin,
ça.
il commence à être de plus en plus tordu. Et c'est vrai qu'au fil des années, avec les intempéries, il y a de plus en plus de trous dans la toiture. Et il y a des arbustes et des arbres même qui poussent sur le toit, qui font que le manoir tombe en ruine au fur et à mesure. Et oui, en fait, il meurt de sa belle mort depuis une quarantaine d'années, hein.
Quand vous vous baladez dans Paris, est-ce que vous voyez déjà les premiers signes de dégradation du temps qui passe?
Alors oui, on peut voir le temps qui passe avec les, en se rendant devant un parc, les parcs ou les squares qui ne sont plus aussi entretenus, parce qu'en fait, ça fait bientôt un mois qu'ils ne sont pas entretenus. Et c'est vrai qu'à côté de chez moi, il y en a un où je vois que les plantes commencent de plus en plus à pousser. Il y a un peu d'herbe qui commence à sortir du sol entre les dalles. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est en train de devenir un vrai jardin sauvage. On voit beaucoup de liserons aussi qui poussent dans les buissons. Donc c'est vrai qu'on commence un petit peu à voir les effets. Et dans la rue même, on voit beaucoup d'herbes qui poussent on voit souvent de l'herbe qui pousse dans les petites fissures au sol, mais là, il commence à y en avoir un petit peu de plus en plus. Alors, peut-être d'ici le 11 mai, parce qu'en France, entre la fin du confinement est prévue pour le 11 mai, il y aura peut-être les Champs-Élysées qui seront complètement recouverts de gazon, je sais pas, on verra.
C'est l'herbe qui vient en premier.
Ouais, c'est vraiment l'herbe. En fait, tout seul,
C'est
le
l'herbe,
sol commence à se craqueler parce qu'il n'est plus entretenu. Parce que les arbres poussent beaucoup autour et l'herbe arrive et ensuite c'est le lierre, la végétation, le liseron, les ronces aussi, beaucoup les ronces.
ouais. Et ça excite votre imaginaire?
Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant d'imaginer ça parce qu'en plus c'est des choses qu'on voit souvent dans pas mal de bandes dessinées ou de films un peu catastrophes qui montrent Paris ou la Terre 200 ans après. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire qu'il pourrait y avoir des herbes, l'herbe, les lianes partout. Et ça me fait penser à une série de photomontages d'un artiste dont j'ai pas le nom là tout de suite, mais il a fait beaucoup de montages comme ça de Paris recouverts de lianes avec des girafes, des singes, des panthères qui se trouvent un peu partout dans Paris. Et c'est assez marrant de s'imaginer que ça pourrait arriver. On voit déjà, apparemment, il y a déjà beaucoup d'animaux qui retournent dans Paris. On voit des canards qui se promènent dans la rue. C'est assez marrant.
Et la tour Eiffel en sablé, comme ça, il resterait plus que le
Plus que le sommet, voilà, où ça
plus que le
deviendrait
sommet.
un arbre géant avec toutes les branches tout en haut, un peu comme le château dans le ciel de Miyazaki avec un arbre géant qui pousse au sommet de la tour Eiffel. C'est vrai que ça serait marrant.
C'est vrai que c'est assez excitant. C'est bizarre quand même, parce qu'en même temps, ça signe et ça signale la catastrophe.
Oui, c'est un des grands paradoxes, enfin, je pense que c'est le paradoxe ultime de l'urbex, c'est qu'on visite des lieux qu'on trouve sublimes parce qu'ils sont recouverts de végétation. Et à la fois, on trouve ça triste qu'il soit abandonné, justement. Donc, il y a vraiment un mélange de tristesse assez triste qu'on ne rénove pas ces lieux ou qu'on les transforme pas pour héberger des personnes sans abri. Et en même temps, on trouve ça tellement beau de voir une serre abandonnée, toute rouillée, recouverte de lierre ou un manoir qui tombe en ruine avec un trou dans le mur qui fait que la lumière rentre et on voit le lit recouvert de poussière. Donc, c'est vraiment le paradoxe, quoi. On trouve ça très beau et en même temps, on trouve ça très triste et il me semble que c'est la définition de la nostalgie, en fait.
Vous aimez la tristesse.
C'est un peu ça, c'est un peu la tristesse, mais c'est une tristesse étrange parce que c'est la tristesse du futur, parce que les endroits abandonnés nous rappellent que tout est éphémère et que pratiquement tout ce qui se trouve sur Terre, tôt ou tard, finira dans le même état que ces endroits abandonnés qu'on voit en photo un peu partout. Donc il y a une espèce de fascination dans le fait qu'on est que de passage, c'est que temporaire. Du coup, c'est un peu le frisson, quoi. On se dit, on visite ces lieux et puis un jour, nous, on sera dans le même état qu'eux.
Vous êtes devenu très philosophe, Timothy Hanem.
Bah,
Parce que vous êtes
c'est
encore
pas.
jeune, enfin,
Ouais.
vous n'êtes pas encore à l'âge où,
Oui.
de la nostalgie où on se rappelle les belles années, vous êtes en plein dedans, mais vous avez déjà ce
Oui, c'est ça.
frisson-là.
Ben, le frisson, en fait, il vient tout seul parce que quand on visite ces lieux, déjà, c'est très calme. C'est un peu une idée reçue que les gens ont, c'est que ces endroits, ils font peur, il y a beaucoup de bruit, de portes qui claquent. Et en fait, si on va visiter un manoir au fin fond de la campagne, il n'y a vraiment aucun bruit, à part juste les oiseaux qui chantent, et c'est très paisible. Et quand on se retrouve dans un endroit comme ça, un immense manoir avec une vingtaine de chambres et qu'il n'y a aucun bruit, le cerveau, il travaille à toute vitesse. Et en fait, on se met à se poser plein de questions sur le côté éphémère de la vie, la mort. On voit des papiers peints qui se décollent, des meubles fracassés au sol. Et ça nous renvoie à notre propre mort. Donc en fait, le cerveau, il travaille tout seul et on se met à philosopher vraiment tout seul très rapidement. Donc c'est grâce aux lieux comme ça qu'on peut se permettre de réfléchir. Hein. Même en venant juste pour s'amuser, pour se faire peur, on se retrouve à philosopher sur la vie, comme ça, sur la vanité des choses, l'éphémère.
Ok, merci beaucoup, Timothy Hanem,
Merci beaucoup.
pour ces quelques minutes passées avec vous. Bonne suite à vous.
Merci beaucoup. Bah, bonne suite à vous aussi.
Prenez soin de vous.
Ça marche. Prenez, puis restez bien chez vous.
Et puis, ouais, merci. Et puis à une prochaine.
Ok, à une prochaine. Bonne journée. Au revoir.
Merci vraiment, au revoir. Ah, ça fait pas de petit bruit. Ça fait plus d'un mois que je suis là. Et la poussière s'accumule lentement sur mes petits objets fétiches. Il y a même une toile d'araignée entre mon crapaud fou et la photo de Gagarine. Et si je ne fais pas attention, mon bureau va ressembler à celui d'un manoir hanté.
La vie au temps du coronavirus.
Voilà, fin de ce podcast. On se retrouve dans quelques jours. On va changer d'air, changer de continent, changer de pays. On part en Tunisie pour discuter avec Bochra Belhadj Hmida. C'est une ancienne avocate, une ancienne députée au Parlement. Elle a présidé en Tunisie la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. Et on va parler avec elle justement de ces libertés individuelles qui sont mises à mal dans de très nombreux pays, dont le nôtre d'ailleurs, au nom de la lutte contre le coronavirus. Et on verra avec cet activiste qui a souffert de la dictature de Ben Ali jusqu'en 2011, on verra avec elle à quel point ces libertés restent importantes et à quel point il faut continuer à les défendre. Et puis, j'aimerais bien vous offrir la parole aussi dans ce podcast. Et donc, je vous propose de m'écrire à mon adresse mail cyril.depraz@rts.ch. cyril.depraz@rts comme radio-télévision suisse.ch. Pour que vous me racontiez ce qui, dans votre relation à vous-même, aux autres et au monde, de manière très concrète, une chose qui a changé depuis le début de ce semi-confinement. Voilà, j'attends vos messages, cyril.depraz@rts.ch. À tout de suite donc, et prenez soin de vous.
La vie au temps du coronavirus, un podcast de la RTS produit à la maison par Cyril Desprats, Didier Rossa, Grégoire Moll et Magali Philippe. Il est présent sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et évidemment Play RTS. Afin de ne manquer aucun épisode et de retrouver les anciens, abonnez-vous.